France Culture vous invite au Centre Pompidou tout ce week-end au travers d'une opération exceptionnelle, le week-end de la création et des idées Imagine, avec énormément de débats, de rencontres, de visites. Venez au Centre Pompidou tout ce week-end, nous vous y attendons. Vous verrez vos animateurs préférés, notamment Sylvain Bourmeau, Emmanuel Laurentin, Caroline Brouet, Mathilde Serrel. Ils seront présent et vous aurez donc la possibilité de les rencontrer. Peut-être vous rencontrerez aussi Xavier Delaporte.
Non, malheureusement, je serais bienvenu. Non, mais c'est vrai, j'ai un truc, comme on dit.
Vous avez désolé. En tout cas, ce matin, vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter une histoire que nous écoutons immédiatement.
Oui. C'est une histoire qui, une fois n'est pas coutume, c'est même extrêmement rare en matière numérique, commence au Kazakhstan. On est à la fin des années 2000. Alexandra Elbakian est étudiante en neurosciences dans la capitale du Kazakhstan qui s'appelle
Astana.
Bien joué. Merci Lacroix. Pour son projet de recherche, elle a besoin d'avoir accès à des articles scientifiques. Son université n'étant pas assez riche pour payer un abonnement à un gros éditeur de revues scientifiques, juste pour donner une idée, l'ensemble des universités californiennes payent chaque année 8 millions de dollars l'accès à la base d'Elsevier, qui est le géant hollandais d'édition scientifique. Donc, l'universitaire kazakh doit payer l'accès aux articles à l'unité, soit 32 dollars par article. Payer 32 dollars pour des centaines d'articles par article, pour des centaines d'articles qu'on ne va parfois faire que survoler, est proprement impossible. Alexandra Elbakian trouve donc un moyen, elle les pirate. Et en les piratant, elle découvre qu'elle n'est pas la seule, elle découvre qu'il y a un nombre considérable d'étudiants et de chercheurs dans le monde entier qui s'adonnent à cette pratique. Les communautés sont plus ou moins organisées, ça passe par des forums, des mailing lists, des réseaux sociaux. Alexandra Elbakian devient très active dans la communauté scientifique et pirate, donc russophone, et décide finalement de rendre tout cela beaucoup plus simple. Elle crée un site auquel elle donne le nom de Sci-Hub, donc Science Hub, réseau scientifique. On est alors en septembre 2011. Aujourd'hui, à peine 5 ans plus tard, Sci-Hub est devenu un acteur majeur de la recherche mondiale. Le site accueille environ 50 millions d'articles scientifiques qui sont donc en accès libre. Des dizaines de millions de requêtes sont faites chaque mois sur le site. Des centaines de milliers d'articles sont téléchargés. Mais Sci-Hub est illégal. Elsevier, donc, ce qui s'estime lésé par l'existence de Sci-Hub et qui observe que les articles que lui-même vend très cher y circulent librement, a porté l'action en justice. Le nom de domaine en.org de Sci-Hub a été fermé en juin 2015. Un mois plus tard, il est apparu sous un autre nom de domaine et le site est toujours accessible via le réseau anonymisant Tor ou alors il utilise des applications chiffrées comme Telegram pour l'échange de PDF. Et puis, le site étant hébergé à Saint-Pétersbourg, ça rend les actions de justice un peu compliquées. Et puis, on peut difficilement lui couper les vivres parce que les infrastructures sont financées par des dons volontaires des usagers. Le problème est devenu tel que le grand journal Science a consacré une longue étude à Sci-Hub dont les résultats viennent d'être publiés le mois dernier. Alors, cette étude montre que la moitié des personnes sondées, 10 000 personnes ont été sondées dans le monde, qui appartiennent essentiellement au monde de la recherche, donc ont déjà utilisé Sci-Hub, qu'un quart l'utilise de manière hebdomadaire et quotidienne. Ce qui est intéressant, ce sont les raisons de cette utilisation. 20% de ces gens disent juste que c'est plus simple. Et de fait, Sci-Hub fonctionne comme un moteur de recherche classique, les articles sont très bien répertoriés. 25% des gens disent que c'est pour lutter contre les profits gigantesques réalisés par les éditeurs. Le chiffre d'affaires de Elsevier annuel est supérieur à 2 milliards d'euros avec des marges entre 30 et 40% selon les années, ce qui reste en travers du gosier de certains chercheurs, même quand leur université leur permet d'accéder au catalogue de l'éditeur. Mais 50% des usagers disent que c'est simplement pour des raisons d'accès. Alors on peut trouver plusieurs morales à cette histoire. D'abord, la première consiste à y voir simplement du vol. C'est la lecture que fait Elsevier et d'autres grands acteurs de l'édition scientifique. Et légalement, évidemment, c'est pas faux. On peut y voir aussi un acte politique de redistribution, ce qui vaut d'ailleurs à Alexandra Elbakian le surnom de Robin des Bois de la science, et inscrire son combat dans le grand mouvement de l'open access, donc l'accès ouvert à la production scientifique. Car après tout, il y a une forme de bizarrerie à vendre très cher à des chercheurs des articles que leurs collègues ont écrits gratuitement, des articles qui ont été révisés par d'autres collègues gratuitement aussi. Maintenant que ces articles se trouvent gratuitement et facilement en ligne, il est possible qu'à terme, Elsevier et autres doivent faire ce qu'a dû faire l'industrie de la musique, si elle veut continuer à vivre, c'est changer de modèle. Et puis, il y a une lecture toute bête. Si l'étude de Science a permis de montrer que des chercheurs de tous les pays utilisaient Sci-Hub, Europe et États-Unis compris, l'activité est très forte dans des pays beaucoup moins privilégiés comme l'Iran, l'Inde ou même la Libye, où en l'absence d'État et de financement de la recherche, des chercheurs peuvent continuer à travailler grâce à ce site. C'est là où se loge quelque chose d'assez beau dans Sci-Hub et qui rejoint les utopies numériques si rarement réalisées, utiliser la technologie pour une diffusion désintéressée, collaborative et égale des savoirs. Ah ouais, mais c'est illégal.